Écrit par Gustave Lenôtre, le vrai chevalier de Maisoncouge, chapitre 8, le château de Saint-Laurent. C'est à Saint-Laurent, près d'Arras, que Rougeville vint, au sortir de sa prison, passer l'été de 1797. Sa joie eût été vive de se voir dans cette terre où il avait été élevé et qu'il aimait, s'il y avait trouvé son père. Mais le vieux gonze que Joseph le Bon avait fait incarcérer et qui avait résisté à l'atroce régime des prisons d'Arras était mort de douleur en apprenant, de Gufroy lui-même, que son fils venait d'être arrêté. Et puis, Rougeville était trop actif. Il avait pris depuis 5 ans une trop grande part aux événements pour pouvoir supporter sans en souffrir l'isolement, l'oisiveté, et le repos forcé de la campagne. Il faut bien dire aussi que ses concitoyens ne parurent pas se douter de l'importance qu'ils croyaient avoir. Les anciennes familles d'Arras, décimées par l'échafaud révolutionnaire, chassées des vieux hôtels patrimoniaux confisqués par la nation, se tenaient confinées dans d'étroits logements et n'avaient nulle envie de reprendre la vie d'autrefois. D'ailleurs, la caste était morte, mais le préjugé survivait. Et Rougeville, que l'irrégularité de sa vie et ses mystérieuses aventures faisaient passer pour un aventurier aux yeux soupçonneux de la province, n'aurait pu être reçu par la noblesse artésienne sur un pied d'égalité capable de le satisfaire. Il ne s'installa donc à Saint-Laurent que très sommairement. Laissa le château dans l'état où il l'avait trouvé, c'est-à-dire presque sans meubles, et prit pour tout domestique une seule bonne amenée de Paris et à son service depuis 5 ans. Il passait dans le pays pour complètement ruiner, mais telle était l'étrangeté de la situation qu'il s'était faite dans l'existence qu'après avoir essayé de chercher le pourquoi de son genre de vie, il faut bien ajouter que tout ceci, en somme, est pure hypothèse. Peut-être, en effet, ne tenait-il à faire croire qu'il avait perdu sa fortune que pour pouvoir vivre loin des gêneurs, seul, dans son château aménagé de façon à n'y recevoir personne. Peut-être se contentait-il des services d'une bonne unique, au courant de tous ses faits et gestes depuis 1792, afin de poursuivre à son aise le but auquel il tendait. Peut-être tout cela n'était-il que comédie. Peut-être conspirait-il toujours. En tout cas, il se compromit. D'abord, il joua au seigneur. « Mes vassaux, disait-il en parlant des paysans de Saint-Laurent, et cela sonnait mal en 1797. » Puis, il voulut s'ériger en protecteur de ses serfs. La conscription avait déjà alors ce formidable appétit qui, pendant 20 ans, lui fit dévorer tant de milliers d'hommes. Et voilà Rougeville qui écrit lettre sur lettre aux commandants de corps et aux officiers de recrutement. Il s'occupe de trouver à ses paysans des remplaçants à bon compte. Il fait valoir leur titre de dispense. Il plaide la cause d'un nommé Pavie qui est infirme, d'Élie Armon qui est marié. Il entretient une véritable agence de remplacement. Il correspond avec le général de Montserrat, avec le général Saint-Hilaire, avec Vandamme, avec les commandants de place de Lille, d'Amiens, de Rouen. Et toujours, il parle de ses vassaux en termes protecteurs, signant imperturbablement « Marquis de Rougeville ». Cette philanthropique besogne dura plus d'un an. Puis, quand il eut fatigué de ses requêtes tous les chefs militaires de la région du Nord, lorsqu'on lui eut fait comprendre, discrètement d'abord, un peu plus sèchement ensuite, qu'il se mêlait de choses qui ne le regardaient en rien, il se cloîtra, pour ainsi dire, dans son château fermé à tous. Sa vie, qui n'était que bizarre, devint mystérieuse taciturne et sombre. Il se confina si bien dans son isolement que les paysans de Saint-Laurent même en arrivaient à se demander si le château était habité ou si leur seigneur était retourné à Paris. Les papiers saisis chez lui nous font pénétrer, en partie, dans le secret de sa retraite. Il y a là certains brouillons de lettres, certaines notes qui ne laissent aucun doute sur ses occupations. Il continuait à conspirer. On ne saura jamais avec quel complice, ni au profit de quel prétendant. Les pièces que nous possédons ne fournissent qu'une indication bien vague et bien incomplète. C'est par exemple le billet suivant, encore plié dans une grossière enveloppe de papier gris, portant l'adresse de Madame la Baronne de Hofflingen, chanoinesse du très illustre chapitre de Wittmerschen à Düsseldorf. Patientez-vous, monsieur le chevalier. Nous ferons tout ce qui dépendra de nous, mais ne vous exposez pas de retourner dans ce maudit âme. Et ce mystérieux billet est signé Nesselrod, né Sachstausen. Voici griffonné sur un chiffon l'adresse du comte de Fersen, l'un des plus dévoués, des plus derniers amis de la reine Marie-Antoinette. Puis c'est l'achat d'un cabriolet pour Paris et cent autres notes aussi peu explicites. En 1798, était-ce encore une comédie qu'il jouait, sachant bien que ses papiers seraient saisis un jour ou l'autre, il éprouve le besoin de se confesser par écrit et, tel est l'étrange document qu'il trace de sa plus belle écriture, nous ne citerons de cet examen de conscience que les confidences ayant rapport à Rougeville, conspirateur, passant sous silence, avec une réserve que nos lecteurs comprendront, les secrets intimes de sa vie privée. In nomine Patrice, etc. Mon père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Confiteor Deo omnipotentis, etc. Quoique je n'ai jamais douté de l'existence de mon Dieu, ni cessé de le reconnaître et de l'aimer, je m'accuse cependant de l'avoir négligé par des adorations que je lui devais et m'être éloigné des sacrements depuis un grand nombre d'années. Quoiqu'il ait toujours entré dans mes principes et dans mon cœur de vivre et de mourir irrévocablement dans la communion de l'Église catholique, apostolique et romaine, me soumettant de cœur et d'esprit aux dispositions qu'elle m'impose. J'ai voulu plusieurs fois assurer par serment des choses fausses et douteuses. Quant aux lois de mon pays, je les ai toujours respectés jusqu'au moment de la Révolution et j'ai plus d'une fois désiré la destruction des novateurs du jour qui en ont sapé jusqu'à l'édifice. Cependant, j'emporte avec moi l'idée de n'avoir pas fait de mal à mon pays et d'avoir toujours désiré la paix, le retour distributif du droit et de la justice et d'avoir désiré de contribuer au bonheur général de l'espèce humaine. J'ai à la vérité maudit tous les rois des empires, mais ce n'est que parce qu'ils n'ont point porté un secours qu'ils devaient aux miens que j'ai toujours aimé et servi fidèlement. Mais je les respecte et je les aime parce que j'ai pour principe et pour souvenir que Dieu, parlant par la bouche de son prophète, dit que les rois sont des dieux. Il défend de les offenser ou trahir parce qu'ils sont sacrés. Il me reste une chose dont elle me pèse par le doute où je suis d'avoir mal fait, c'est que dernièrement, à la prière et aux mauvaises mœurs de mes vassaux, je leur ai donné un curé sermenté, mais dont il m'a dit qu'il n'y faisait aucun cas, étant et ayant des principes très religieux. C'est moi qui le loge et l'entretiens à effet d'instruire la jeunesse et de maintenir mes vassaux dans la ferme croyance de Dieu et de tous les principes que l'Église ordonne. Mea culpa, etc. Un peu plus tard, il offre ses services, en termes assez fiers, au général Bonaparte et demande un emploi, soit civil, soit politique, soit militaire. Me soumettant d'avance, ajoute-t-il, au pouvoir et à l'obéissance que vous accorde provisoirement la disposition des affaires humaines. Très probablement, le premier consul, qui n'avait pas l'intention d'être provisoire, ne répondit pas à cette étrange supplique. Que penser encore de cette lettre dont le style, les phrases, les tournures sonnent si faux qu'elle ressemble à ces expositions de pièces mal faites où deux confidents se racontent l'un à l'autre des choses qu'ils connaissent parfaitement tous les deux, à seule fin de mettre le spectateur au courant de l'action. J'arrive en ce moment de Paris, mon cher Schmitt, où j'y ai été malade pendant 7 mois consécutifs. Et c'est ce qui m'a privé de vous aller voir et de vous aller embrasser comme mon cœur le désirait. D'autant plus que mon amitié pour vous partage tous mes sentiments. Oui, mon cher Schmitt, vous m'êtes infiniment cher, et si vous aimez à vous le faire dire, croyez que je n'aime guère moins à vous le répéter et d'être payé de retour. Je vous annonce que mon gouvernement vient de me proposer un emploi assez brillant et que je suis à me déterminer. Si j'acceptais, il me faciliterait de vous voir plus vite parce que mon occupation s'étendra jusqu'à Bruxelles et qu'alors je me trouverais presque à moitié chemin jusqu'à chez vous. Je vous annonce aussi qu'absorbé dans mes ennuis et livré à mes douleurs que je ne puis oublier, j'ai résolu de chercher à y mettre fin en renonçant à mon existence de célibataire et de jouir, comme tout autre, de l'agrément d'une aimable compagne. Comme il ne se trouve aucun parti dans mes environs qui puisse remplir mes vues, parce que la faux révolutionnaire a sapé individuellement toutes les personnes et toutes les fortunes, je vais tâcher de chercher ailleurs. Si par hasard il se trouvait chez vous ou dans les environs une aimable Allemande et dont la fortune puisse répondre à peu près à la mienne, je la préférerais à une Française. Je vous mandais, mon cher Schmitt, par ma dernière, que j'avais absolument besoin de ce que je vous avais demandé précédemment. Je vous prie donc de me faire encore le plaisir. La fin de la lettre manque. Ces dernières lignes sont peut-être les seules sincères. Le reste ne paraît être que remplissage et mensonge. Est-il besoin de dire que jamais le gouvernement ne songea à offrir un emploi à Rougeville? Où habitait d'ailleurs le cher Schmitt? Bruxelles semble être indiquée comme le point intermédiaire entre sa résidence et Paris. Cela nous conduit à peu près sur le Rhin. La lettre serait donc adressée à quelque émigré? Mais pourquoi chercher? Sans clé, ce texte est indéchiffrable. La lettre est évidemment écrite en langage conventionnel, assez semblable à celui qu'emploient les joueurs à la bourse quand ils échangent des dépêches ainsi conçues. La vieille tante va mieux. La fiancée s'est trouvée mal. Suivant que montent ou baissent les valeurs sur lesquelles ils spéculent. Voici qui est plus déconcertant encore. Il importe de remarquer que la pièce suivante, où Rougeville va nous donner de lui-même un si avantageux portrait, est tout entière de son écriture. Ce n'est d'ailleurs pas une copie, puisqu'elle contient des renvois et des ratures. Monsieur de Rougeville vient de partir pour Paris, et il est bien décidé d'aller à Reims, et je vous réitère, mon cher ami, que je désire bien que vous fassiez en sorte de le marier, et le plus avantageusement que vous pourrez. Il mérite réellement une femme aimable et de fortune par les qualités sans nombre qu'il possède. Vous le verrez et jugerez persuadé qu'il vous plaira, ainsi qu'à celle pour qui il est destiné. Il est d'un excellent caractère, plein de douceur, de connaissance et d'esprit, infiniment serviable et d'un excellent cœur. Son caractère, principalement, et des plus extraordinaires par sa constante persévérance pour son opinion, dont rien n'a pu et ne pourra changer ce qui a fait jusqu'à cette heure sa gloire. Je vous cite cela comme un prodige, d'autant que ces hommes sont bien rares dans ce pays-ci où tous les honnêtes gens ont été sacrifiés. Vous l'aimerez, dis-je, car vous aimez vous-même ces sortes de caractères, et certes, le sien est adorable. Sa douceur, ses procédés et sa galanterie pour les femmes est infiniment soignée, et il est aisé de voir qu'il a reçu une parfaite éducation et qu'il ne fréquente que le grand monde. Il y met même une étude particulière, quoique ce soit naturel chez lui, et il ne veut en rien départir de l'ancien proverbe français « galant pour les femmes et terrible pour la guerre ». Je ne vous parle pas de sa construction, vous la verrez, mais il n'y a pas de doute qu'il plaira. Sans être trop jeune, il a toute la fraîcheur d'homme qui annonce une bonne santé, qui ne peut être l'effet que d'une grande conduite. Sans être trop grand, il possède une belle taille, infiniment bien fait. Sa figure est des plus nobles et des mieux construites. Et s'il n'était point un peu gravé de petites véroles, il serait un Adonis, ayant des yeux infiniment beaux, vifs, spirituels, de très beaux sourcils, une bouche à ravir, la plus petite qu'on puisse voir, annonçant qu'il n'en est sorti rien que d'aimable et de flatteur. Enfin, voilà le tableau de l'homme que vous allez voir, fait par son ami, et si vous y trouvez quelque chose d'exagéré, c'est par l'attachement que j'ai pour lui qui me fait voir et sentir comme cela. Ses prétentions sont grandes, éminentes même pour l'avenir, par les grands et signalé service qu'il a rendu à des personnes illustres dont il est aimé et considéré. Mais ce qui est infiniment agréable, c'est son habitation, du plus beau château qu'on puisse voir, qui est un séjour enchanteur. Il a été construit par son père qui y a dépensé plus d'un million et dont il trouve beaucoup d'amateurs qui lui en offrent une grande somme. Puis, vient une autre feuille, une note ainsi conçue. Monsieur de Rougeville, âgé de 38 ans, ancien officier de la Légion de Soubise, etc., désirerait trouver à se marier à une famille honnête et respectable par ses principes, sous tous les rapports. Sa fortune, quoique anéantie par la Révolution, consiste encore, deux points, superbe château, coûté 400 000 francs, à bâtir aujourd'hui 60 000. Dépendance, qualifiée commanderie du Mécourt, 750 000. Un autre château, nommé Château de Rougeville, relevant du roi avec un moulin à eau, une papeterie, 90 000. Une brasserie à Sainte-Catherine, 30 000. Terre, 18 000. Matériel agricole, 18 000. Meubles, 20 000. En portefeuille, contrat, etc., 26 000. Soit un total de 337 000. Prétention et prêt à rentrer dans un bien, 70 000. Plus, dans un droit de terrage situé dans la commune de Rougeville, estimé à 75 000 francs pour un sixième, soit 12 500. Total, 419 500. Plus une pension annuelle et héréditaire de 3 000 francs sur les États-Unis de l'Amérique fondée sur la Société de l'Ordre de Cincinnati. 3 000. Plus une propriété en Amérique septentrionale à lui concédée par le Congrès des États-Unis en récompense de ses services. 40 000. On voit que cette fortune, anéantie par la Révolution, prenait sous la plume de Rougeville des proportions assez respectables. Qui espérait-il duper avec ses gasconnades? L'homme qui écrivait des lettres semblables à celles que nous avons citées, était-il un fou, un escroc ou un vulgaire hableur? Celui qui s'était dévoué au salut de la reine n'était-il donc qu'un simple chevalier d'industrie? Ou doit-on croire qu'il acceptait courageusement toutes les conséquences de la vie de conspiration et de complot continuel qu'il s'était condamné à mener? Si l'on admet cette hypothèse, on comprend que la dissimulation, le mensonge entrait naturellement dans son jeu, et l'on peut penser qu'il se servait de lettres d'introduction semblables à celles qu'on vient de lire pour pénétrer dans les familles, pour nouer des intrigues, pour dépister les soupçons. Reims, où son pseudo-projet de mariage semble devoir le conduire, eut tant que durèrent la République et l'Empire son petit centre de mécontents. Sans doute, est-ce à ce noyau de royalistes boudeurs que Rougeville cherchait à se réunir. Si la police était étonnée de ses allées et venues, si l'on avait saisi sur lui les papiers dont il était porteur, il espérait ainsi donner le change et se faire passer pour un homme désillusionné de la politique et courant le monde afin de trouver femme. Ainsi, cette mobile figure échappe à toute psychologie et l'on ne sait jamais si l'on a affaire à un malhonnête homme cherchant des dupes ou à un conspirateur correspondant avec des complices. La preuve qu'il mentait sans scrupule nous est donnée par un brouillon de lettres trouvé dans son portefeuille et commençant par cette phrase. « J'arrive d'Angleterre. Ce mot est barré. De Vienne. Nouvelle rature. Il se décide enfin et écrit. « J'arrive du fond de l'Allemagne et mon absence dure depuis 5 mois. » etc. Dans les intervalles de ses mystérieux voyages, il passe ses journées à consigner, pour la postérité, les hauts faits de son étrange existence. C'est toujours à la conciergerie que retourne sa pensée. C'est à son entrevue avec la reine que revient sans cesse son esprit. Ce souvenir semble le hanter. Il entreprend un travail qu'il intitule « L'apothéose des princes français ». Et il commence par exalter son dévouement. « J'ai pendant toute la Révolution prouvé à mon roi, à ma patrie, que je méritais leur confiance. Mon corps n'a cessé d'être le bouclier des leurs. En proie même aux destructeurs, j'ai sacrifié tous mes jours, par conséquent mes plaisirs, mes dissipations, mes intérêts. Je n'ai pas moins veillé toutes les nuits, enfin, je n'ai laissé échapper que des instants où j'ai succombé de fatigue et de sommeil. Mes principes sont au-dessus des variations de l'humanité. Ils sont immuables comme la terre. » Mais bientôt cette apologie le rebute et il se met à composer une tragédie en vers, prenant pour sujet ses propres aventures. Le seul fragment qui reste de cette œuvre dramatique est la scène où le chevalier pénètre dans la prison de la reine qu'il va sauver. Scène 13. La reine, le geôlier, un chevalier. Le chevalier seul. Je marche en tremblant dans ces lieux souterrains où la cendre des victimes est l'effroi des humains. Mon sang se glace de ces sueurs funèbres, plus terribles cent fois que ne sont les ténèbres. Cette lampe suspendue, dont ses reflets obscurs éclairent tristement l'enceinte de ses murs, me représente. Il me semble entendre de sourds gémissements, des sanglots étouffés, de longs mugissements, qui font retentir ces voûtes effroyables d'une lugubre voix et d'accents lamentables. Ces soupirs, ces plaintes qu'il me semble entendre restent d'une moitié qui tient l'autre à sa cendre. Ô puissance de mon âme, c'est ici sans doute, d'après cette faible clarté qui ne luit qu'à peine en ce lieu redouté, que repose la plus illustre des reines. Dans le tombeau, parmi les ombres, j'aperçois de la mort cette pâle victime. Je dois en écarter la vue, crainte de faire un crime. Ciel, qu'entends-je? À tes pleurs, reine chérie, que ne puis-je mettre fin? Du mouchoir qui les essuie, que ne suis-je l'heureux lin? Que ne suis-je l'espérance qui dans tes mots te soutient? Que ne suis-je la puissance qui doit changer ton destin? Reine chérie, à ma vue tu frissonnes peut-être, tu crains d'y lire un sort que tu voudrais connaître. Ton œil roule égaré, n'ose les parcourir. Tu sens couler tes pleurs, hélas, tu dois frémir. Mais je meurs avec toi, et mourant pour te suivre, je mourrai sans songer que je cesse de vivre. Bientôt un même sort nous joindra tous deux. Puisse le ciel propice exaucer ici mes vœux. Ce court monologue ne permet point de regretter que la tragédie entière ne nous ait pas été conservée. Elle ne fut probablement jamais écrite. À son insu, Rougeville était étroitement surveillée. L'administration était tenue au courant de tous ses déplacements et il se formait contre lui, à Paris, dans les bureaux de la police, un orage qui devait éclater tôt ou tard. Une des singularités de la Révolution est l'apparition sur toute la France d'une nuée d'espions et de délateurs. La chose est assez inexplicable, car on aimerait à penser que l'hypocrisie et la dissimulation ne sont point des traits du caractère français. Sous l'ancien régime, au temps à jamais regrettable, où chacun ne s'occupait que de ses affaires et ignorait jusqu'aux mots de politique, il ne serait venu à personne l'idée de concourir à la sûreté de l'État. La police secrète existait, certes, avant 1792. Nous n'avons nulle intention de le nier. Mais elle ne jouissait pas d'un bon renom, et on en laissait l'exercice à certains déclassés, méprisés de tous, même de ceux qu'ils servaient. La Révolution changea tout cela. Lorsqu'elle mit la suspicion au rang des institutions de l'État, elle érigea la délation en un devoir civique, imposé à tous. Chacun voulait dénoncer un suspect. C'était là servir sa patrie, se montrer bon citoyen. Nos dépôts d'archives contiennent des milliers de rapports où des gens, que cela ne regarde pas du tout, viennent, par pur patriotisme, raconter ce qui se passe chez leurs voisins. Le voisin était guillotiné, et quelquefois son dénonciateur l'était avec lui. Mais cet inconvénient ne rebutait personne, et il se trouva que lorsque l'odieuse loi des suspects fut rapportée, son esprit était passé dans les mœurs, et que de bons bourgeois croyaient sauver le Capitole en signalant au pouvoir ceux qui ne leur semblaient pas pleins d'enthousiasme pour les institutions du pays. Le juge de paix de Raux, bourg voisin de Saint-Laurent, était un de ses zélés. Il se nommait Verdevoix et était, semble-t-il, en discussion de voisinage avec Rougeville. Dès le 26 Fructidor de l'an 5, cet espion amateur écrit de Saint-Laurent directement au citoyen Merlin, membre du directoire exécutif, et lui expose les soupçons qu'il a conçus touchant le civisme du châtelain. Citoyen, dit-il, pénétré des sentiments d'amour de son pays qu'inspire la circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 15 Fructivore, je crois qu'il est de mon devoir, en qualité d'officier de police, de vous prévenir que j'ai de violents soupçons sur la conduite de Monsieur Gouze de Rougeville, demeurant en cette commune, y ayant son château, échappé aisément des prisons de Paris à l'aide, je crois, de la faction royaliste que vous venez de découvrir et aux soins généreux de Monsieur de Coucherie. Cet homme donne dans l'aristocratie plus ouvertement que jamais. Il est temps de le veiller, car s'il n'est point un agent des conspirateurs royaux, il en est au moins l'ami. Il tient fort à ses anciens privilèges usurpés. Tout roturier qu'il est, se qualifiant dans tous ses actes d'ancien colonel de cavalerie de France, etc. Un mois plus tard, Verderoy revient à la charge. Cette fois, il s'adresse au commissaire du pouvoir exécutif près du département du Pas-de-Calais. Rougeville ne demeure pas à Arras. Il a son château dans une commune dont il a essayé de corrompre les habitants par le fanatisme. J'ai appris qu'il était parti pour Paris et que son retour doit être prochain, qu'il aurait obtenu à cet effet un passeport de la ville d'Arras. Il existe dans le château ci-devant colonel de cavalerie de France, c'est le titre qu'il prend dans tous ses actes, une Allemande dans laquelle je n'aurais pas plus de confiance. J'ignore si c'est en qualité de servante ou autrement. On le dit décoré sous ses vêtements des croix de Saint-Louis, de Cincinnatus et du duché de Limbourg. Ce dernier crime, outre qu'il semble assez difficile à constater, ne devait pas beaucoup contribuer à fanatiser les paisibles habitants de Saint-Laurent. Quant à l'Allemande, elle était la domestique de Rougeville. Elle se nommait Catherine Ulrich et était originaire des environs de Colmar. Je n'hésite pas à croire, d'ailleurs, qu'elle en savait long sur le compte de son maître. Celui-ci était donc signalé, et en bon terme, à la police générale. Une histoire de femme va encore aggraver sa situation, déjà largement compromise. On n'a pas oublié, peut-être, cette veuve La Couture qui, en 1793, pourchassait Rougeville de ses assiduités et, dans un accès de rage jalouse, l'accusait de l'avoir dépouillée au profit de Sophie du Tilleul. En quittant l'hôtel des Tuileries où son amant l'avait abandonnée, elle était allée se loger chez une lingère de la cour des Fontaines, puis chez un nommé Boquet, rue du Faubourg Poissonnière au numéro 6. Ne touchant jamais un sou de la rente viagère de 800 francs dont Rougeville lui avait souscrit le contrat, elle tomba bientôt dans la misère. On était alors en pleine terreur. Son débiteur avait disparu. Errant alors de garni en garni, elle avait demandé, à tous les échos et sans succès, des nouvelles de Rougeville. Enfin, à bout de ressources, elle s'était réfugiée chez son frère, le citoyen Maignan, député au Conseil des 500, qui lui fournissait charitablement le vivre et le couvert. Le hasard la servit pourtant. Le député Maignan entendit, à la séance du 21 prairial en 5, prononcer à la tribune le nom de Rougeville. Il apprit ainsi ce que l'amant de sa sœur était devenu. Il le redit à Louise La Couture, et celle-ci alla se mettre en faction à la porte de Sainte-Pélagie. Quand Rougeville en sortit, ravi d'être libre, la première personne qu'il rencontra fut son ancienne maîtresse. Ce fut pour elle une grande joie, pour lui un contretemps fâcheux. Il fit le passionné, raconta qu'il était revenu de toutes ses erreurs, qu'il ne se mêlait plus de politique, qu'il était disposé à se ranger et que, si elle y consentait, il était résolu à l'épouser. La pauvre femme fut bien heureuse. Elle se croyait à la veille non seulement de vivre avec celui qu'elle aimait, mais encore de rentrer dans son argent. Lorsqu'elle toucha un mot de ses arrérages, Rougeville prétexta un moment de gêne. Il s'offrit cependant à lui signer des billets, ce qu'elle accepta. Puis, les billets signés, il la pria de le laisser tranquille. Louise La Couture pleura, se fâcha, menaça, mit ses billets entre les mains d'un avoué. Celui-ci obtint de Rougeville 400 francs et les garda pour prix de ses honoraires. Abrégeons, car l'histoire n'a rien que de banal. La femme, la couture, aux abois, remise de moi en moi, cherchant Rougeville dans tous les garnis de Paris, ne le trouvant pas, n'osait entamer un procès de crainte, si elle avait gain de cause au point de vue pécuniaire, de perdre à tout jamais l'espoir d'épouser Rougeville. Celui-ci était plus que jamais insaisissable. Il passait sa vie sur la route d'Arras à Paris. On était alors au commencement de 1804, et les royalistes sentaient leur échapper la chance qui, depuis le directoire, avait paru leur sourire. Ils comprenaient trop tard que le premier consul n'avait aucune vocation à jouer le rôle de Monk. Aussi s'agitait-il, espérant encore se débarrasser de lui par un coup de force. Il est hors de doute aujourd'hui qu'il exista un vaste complot tendant à surprendre Bonaparte au milieu de son escorte, à s'emparer de sa personne et à le conduire en Angleterre. En même temps, un des jeunes princes français, le duc de Berry ou le duc d'Angoulême, devait soulever la Vendée et la Normandie et marcher sur Paris à la tête de 100 000 chouans. Jamais peut-être le duel entre le pouvoir et l'opposition ne fut plus serré, plus émouvant qu'à cette époque. Chaque jour voyait un nouvel assaut des royalistes, une nouvelle riposte du consul. Le moment était proche où l'un des deux adversaires serait obligé de s'avouer touché. Et c'est pour en finir que Bonaparte frappa un coup terrible. Il savait que les princes de la famille de Bourbon se tenaient aux frontières, prêts à les franchir au premier signal des conspirateurs. En 5 jours, le duc d'Angien fut enlevé à Ettenheim, amené à Paris et fusillé sans forme de procès. La Restauration s'est appliquée plus tard à présenter le jeune prince, victime de ce crime odieux, comme ne se mêlant pas de politique, vivant à 2 pas de la France, en homme que l'avenir de son pays laisse indifférent, occupé seulement de ses amours avec une princesse de Rohan. Il me semble que c'est là ternir la mémoire du duc d'Angien. Pour moi, je préfère penser qu'à l'heure où Bonaparte se disposait à rétablir à son profit la monarchie de Louis XIV, le descendant du grand Condé sentait bouillonner en ses veines le sang de son illustre aïeul, qu'il se tenait prêt à passer le Rhin, à tenter un coup d'audace, à protester par tous les moyens contre l'acte qui se préparait. Et dû le crime de Bonaparte paraître moins horrible, j'aime mieux croire que le dernier des Condés a, comme c'était son devoir, conspiré contre l'Empire, que de ne voir en lui qu'une victime désignée au hasard pour terrifier des mécontents. À moins que dorment dans quelque bahut de province les mémoires inédites, ignorées et sincères de l'un des agents du vaste complot que le consul déjoua si tragiquement, il est bien probable que jamais on ne saura la vérité tout entière. Les conspirateurs ne laissent point derrière eux, comme le font les ordinaires acteurs de l'histoire, toute une traînée de documents authentiques, de pièces officielles, de rapports, de notes, de correspondances. Ce qu'ils trament se prépare dans l'ombre et leur principal souci est de ne laisser derrière eux aucune trace. Le secret qu'ils ont à garder de leur vivant se perpétue ainsi après leur mort, et c'est le hasard seul qui peut leur assigner dans l'histoire la place à laquelle ils ont droit. Il est certain, néanmoins, qu'en supprimant le duc d'Angien, Napoléon voulait porter un coup à une conspiration dont il eut, lui seul peut-être, connaissance. C'est le 15 mars 1804 qu'il le fit saisir à Ettenheim. 6 jours auparavant, Cadoudal avait été arrêté à Paris au moment où il allait donner le signal du soulèvement général. Il est permis de supposer que si le premier consul avait pu mettre la main sur les principaux agents royalistes, il n'eût pas songé à aller chercher à l'étranger un prince de Bourbon pour assouvir sur lui son ressentiment. Mais il ne tenait que Cadoudal, et celui-là n'était pas homme à trahir le nom de ses complices. Alors, ne pouvant faire qu'un exemple, le futur empereur voulut que cet exemple fût terrible. Rougeville était-il au nombre des affidés de Cadoudal? C'est probable, car voulant frapper un grand coup, les royalistes avaient mobilisé le banc et l'arrière-ban de leurs amis. Ce qui prouverait d'ailleurs sa participation à ce vaste complot, c'est qu'il avait quitté Saint-Laurent vers la fin de février, qu'il était à Paris le 9 mars et que ce jour-là même, il reprit précipitamment le chemin d'Arras. Pendant ce court séjour, Louise Lacouture l'avait rencontré. Le voyant fuir de nouveau, elle crut qu'il allait encore lui échapper. Elle se décida à partir, elle aussi, pour Arras, et dès le lendemain, elle se présentait au château de Saint-Laurent. Elle avait un projet dont la réalisation devait satisfaire à la fois son amour et ses intérêts. Du moment que son débiteur ne pouvait pas s'acquitter, elle voulait lui proposer de reprendre la vie commune et s'engager à ne rien lui réclamer s'il consentait à la laisser vivre près de lui à Saint-Laurent. Rougeville avait bien autre chose en tête. Il croyait toute la politique de Bonaparte à ses trousses et s'attendait à chaque instant à être arrêté. Il chargea sa bonne de recevoir l'importune visiteuse. L'explication fut chaude. La citoyenne Lacouture, jalouse de la confiance dont semblait jouir dans la maison Catherine Ulrich, se montra fort vive dans ses récriminations. L'Alsacienne, à bout de patience, lui allongea un soufflet et referma la porte. Ce soufflet devait décider de l'avenir de Rougeville. La pauvre Louise Lacouture s'en alla pleurer chez le maire, raconta toute son histoire. Elle dit comment Rougeville lui avait promis le mariage, comment elle lui avait prêté de l'argent, dans quel but elle était venue le relancer jusqu'à Saint-Laurent. Elle manifesta en sanglotant le désir de s'installer dans le village même, en face de la maison de son infidèle. Elle avait trouvé à louer une chambre chez une ouvrière nommée Julie Cathy, qui travaillait pour le château. Elle termina en sollicitant un permis de séjour que le maire lui refusa. Or, ce maire n'était, en 1804, autre que ce ver de voix que nous avons vu en qualité de juge de paix du canton de Rouen poursuivre Rougeville de sa haine. La citoyenne Lacouture s'adressait bien. L'occasion était trop belle pour la laisser échapper. Verdevoix réfléchit pendant quelques jours. Puis il prit la plume et écrivit directement au ministre de la Justice. Citoyen ministre, une femme âgée de 42 ans, se disant veuve Lacouture, fille Lemaignan, ordinairement domiciliée à Paris, est venue se réfugier depuis 15 jours dans cette commune. Elle s'est présentée plusieurs fois chez moi à effet d'obtenir un certificat de résidence. L'empressement et le désir qu'elle avait de l'obtenir pouvaient donner lieu à des soupçons. J'ai cru cependant ne pas devoir lui en délivrer. Comme cette femme m'a beaucoup parlé de M. Couchery, à qui aujourd'hui je vois jouer un rôle, que soi-disant elle arrive de Paris avec l'intention de recouvrer une somme de 12 000 francs que le soi-disant marquis de Rougeville, demeurant dans cette commune, lui aurait escroqué. Que le dit Gousse, dit Rougeville, revient de Paris et que cette femme l'a suivie sous prétexte de l'épouser. Que d'après la remarque faite déjà plusieurs fois, le digousse se rend chez cette femme à Paris lorsqu'il doit arriver quelque chose de fâcheux. Qu'au retour, il fait croire à nos paysans que Bonaparte l'a nommé à des fonctions importantes, qu'il a reçu des lettres de Dumouriez qui lui annonce qu'il est attendu et désiré à Londres, que d'après les longues conversations de cette femme avec moi, ledit Gousse pourrait bien être suspect, que cette dame, la Couture, et lui sont partis de Paris dans le moment où vous suivez le fil d'une conspiration infâme. J'ai cru ne devoir pas vous laisser ignorer qu'il se trouvait dans cette commune. » On juge de l'effet d'une pareille note, tombant dans les bureaux de la police à l'heure où il fallait à tout prix, pour plaire au maître, découvrir des conspirateurs. La lettre de Verdevoix était parvenue au ministre le 22 ventose. Dès le 23, mission était donnée au général Moncey, inspecteur général de la gendarmerie, d'envoyer par un courrier extraordinaire l'ordre d'arrêter le marquis de Rougeville. L'officier chargé de l'exécution de cet ordre pourra s'adresser au maire de la commune de Saint-Laurent. La veuve La Couture, qui l'a suivi de Paris, devra aussi être arrêtée. Les papiers de tous deux, recherchés avec le plus grand soin et mis sous scellé. Il importe que ces deux individus soient ramenés à Paris, séparément, sous escorte suffisante et sans qu'ils puissent communiquer entre eux. Le 24 Vendôme, en 12, à 9h du soir, le capitaine Linas, de la 15e Légion de la Gendarmerie nationale, frappait à la porte de Verdevoix. Il avait donné ordre au maréchal des logis Bousquet et aux 8 hommes qui l'accompagnaient de s'arrêter à l'entrée du village pour ne pas donner l'éveil aux habitants. Verdevoix, qui connaissait les êtres, dressa le plan de campagne. Il s'offrit à l'officier pour diriger en personne l'arrestation de celui qu'il considérait comme un ennemi personnel. Il touchait au but, mais il voulait jouir de son triomphe et se montrer à sa victime dans tout l'orgueil de sa victoire. Quand toutes les lumières de Saint-Laurent furent éteintes, quand le village fut endormi, il était 11h, Verdevoix sortit de chez lui avec le capitaine Linas, et tous deux allèrent retrouver les gendarmes qui, dissimulés derrière une haie au bord de la route d'Arras à Douai, attendaient patiemment le moment d'agir. Le brigadier Dumortier et 4 hommes reçurent la mission de garder la porte de la ferme. Un des gendarmes, affublé par Verdevoix d'un long manteau de paysan et d'un chapeau rabattu, devait se présenter à la grande porte et jouer le rôle d'un étranger ayant à entretenir le propriétaire du château d'une affaire urgente. Quand tout fut ainsi convenu, le capitaine et le reste de sa petite troupe firent, en se glissant le long des murs, le tour de la propriété et pénétrèrent dans le jardin par une porte restée ouverte. À la faveur de l'épaisse obscurité qui régnait sous les massifs, ils s'approchèrent du château. Arrivés au pied de la terrasse du midi, Linas disposa ses hommes à l'entrée des principales allées, sous les arbres. Puis, jugeant que tout était prêt, il s'accroupit près du perron et attendit. 3/4 d'heure se passèrent. Tout à coup, on perçut dans la nuit le bruit d'une cloche. Le gendarme déguisé sonnait à la grande porte. Rien ne bougea dans le château. Au bout d'un instant, la sonnerie tinta de nouveau. Même silence. Une troisième fois, la cloche se fit entendre, secouée vigoureusement. Le château resta silencieux, comme s'il était inhabité. Le maréchal des logis Dumortier était venu rejoindre dans le jardin le capitaine, et tous deux, anxieux, aux aguets, prêtaient l'oreille au moindre bruit. 1/4 d'heure se passa encore. Enfin, l'officier monta sur la terrasse, fit le tour de l'habitation et frappa une porte de la façade exposée au couchant. Bientôt, on distingua dans la maison un bruit de pas, et à travers la porte, on entendit Rougeville crier à sa servante. « Catherine, n'ouvrez pas, n'ouvrez sous aucun prétexte !»«
C'est lui !» fit tout bas Dumortier.
« N'ouvrez pas !» répéta la voix du châtelain. « Monsieur de Rougeville !» cria Linas. « Je viens pour arrêter une femme qui se cache chez vous. Ouvrez, je vous somme d'ouvrir. »
« N'ouvrez pas, Catherine !» reprit pour la troisième fois Rougeville.
Alors le capitaine brisa d'un coup de la poignée de son sabre la vitre de la porte, passa le bras, saisit le verrou à l'intérieur, le poussa, ouvrit la porte et, suivi du maréchal des logis, se précipita dans le château. Vers de Voix leur en avait décrit la topographie intérieure. Tous deux gravirent en hâte le grand escalier. Une chambre était ouverte, encombrée de papiers, le lit défait. Personne. Ils redescendirent, gagnèrent la porte de la cave, s'y jetèrent le pistolet au poing. Dumortier tenait une chandelle allumée trouvée dans le vestibule. Ils explorèrent tous les coins. Personne encore. Comme ils remontaient pour continuer leurs recherches dans les appartements, un grand cri s'éleva dans le jardin. « à moi, capitaine !» Linas reconnut la voix d'un de ses gendarmes. Il courut à la terrasse. « à moi, il se sauve !» criait l'homme. Et l'on apercevait dans l'ombre une forme noire qui, en trois bonds, traversait le parterre et s'enfonçait sous les bosquets. Les gendarmes se jetèrent à sa poursuite. Linas et Dumortier les rejoignirent. On fouilla le jardin, le potager, le petit bois. On fit une battue dans les champs. On organisa des patrouilles sur les routes. Rien, pas un indice. Les gendarmes racontèrent à leur chef que, tandis qu'ils se tenaient au pied de la terrasse, les yeux fixés sur les fenêtres du château, ils avaient tout à coup entendu du bruit derrière eux. Une ombre noire venait de sortir de terre et c'est alors qu'ils avaient poussé le cri d'alerte. L'inspection minutieuse des localités fit reconnaître qu'un souterrain passant sous la terrasse même mettait en communication les caves du château avec le jardin. C'était là le chemin que Rougeville avait pris pour s'échapper et sans doute avait-il dans les environs quelques retraites sûres pour s'y réfugier en cas de surprise. Le seul fait de cette évasion est une preuve certaine que le chevalier du poignard n'était point seulement le hâbleur présomptueux, l'aventurier gênant, mais non dangereux, dont parlait dédaigneusement le préfet du Pas-de-Calais dans ses rapports. Nul homme, quelque mal équilibré qu'on le suppose, n'aurait commis, sans qu'il y eût urgence, la légèreté d'aggraver sa situation par une fuite si compromettante, et d'ailleurs l'existence même d'une issue secrète, la précision et la rapidité de son action établissent surabondamment que le marquis de Rougeville prévoyait que ses agissements devaient un jour ou l'autre sembler suspects à l'autorité et qu'il avait tout disposé à l'avance pour n'être point pris. Les gendarmes battirent la contrée jusqu'à 6 heures du matin. Quand il fut bien évident que Rougeville resterait introuvable, le capitaine Linas revint au château pour interroger la domestique. Catherine Ulrich, dit la naïve, prétendit ne rien connaître des intrigues de son maître et parut étonnée d'apprendre qu'elle servait un conspirateur. On ne tira d'elle aucun renseignement. L'officier entreprit ensuite l'inventaire des papiers. La chambre de Rougeville en contenait une telle quantité qu'il ne fallut pas moins de 15 heures pour les parcourir et en prendre note. On mit à part certains papiers qu'on saisit. Le reste, soigneusement enliacé, fut placé sous scellé. Que contenaient ces papiers? Il n'est pas possible de le savoir, car il n'existe plus au dossier, ayant été en grande partie rendu à Rougeville quelques années plus tard. Le 28 Ventose, le général Moncey, en rendant compte à Réal de la mission de son courrier extraordinaire, assurait qu'ils étaient fort intéressants. Le préfet, au contraire, certifiait qu'on n'y trouvait nul indice de correspondance avec les agents de la conspiration. Il est probable que le fugitif
avait mis d'avance en lieu sûr ou emporté avec lui les documents les plus compromettants. Le préfet, d'ailleurs, joue en cette affaire un rôle purement passif et ne paraît pas très bien informé. Tout s'est passé, on l'a vu, en dehors de lui. La dénonciation émanait directement de Verdevoix. L'ordre d'arrestation avait été non moins directement transmis par le général Moncey au commandant de la gendarmerie, ce qui n'empêche pas le premier fonctionnaire du département, jaloux de prouver à son tour son initiative et son dévouement, de se donner les gants de l'aventure dont il n'eut connaissance que lorsqu'elle fut terminée. « Ce Rougeville, écrit-il dès le lendemain, habitait une espèce de château à Saint-Laurent et paraissait avoir des liaisons avec quelques aventuriers. Il s'était rendu le défenseur officieux des conscrits et déserteurs. Je l'ai menacé de le faire enlever la première fois qu'il se mêlerait d'affaires publiques ou qu'il s'aviserait de promettre sa protection à des conscrits. » On le soupçonne d'avoir extorqué une somme considérable à une femme avec laquelle il vivait. Il y a longtemps que je le faisais surveiller. On a voulu par ordre supérieur le saisir cette nuit. Il s'est échappé en chemise. Le signalement du fugitif fut publié dans tout le pays. On mobilisa les brigades de gendarmerie dans tous les cantons où l'on pensait qu'il avait pu chercher asile. Mais comme naguère, à la suite de l'affaire de l'œillet, Rougeville demeura introuvable. Depuis longtemps, et ceci prouve qu'il n'était pas seulement l'homme brouillon et mal équilibré dont parle le préfet, mais qu'il était affidé à quelque grave complot, depuis longtemps, il s'était préparé dans le pays une retraite absolument sûre, chez quelques complices inconnus, dans quelques carrières abandonnées peut-être, ou mieux encore, à Arras, où il était plus facile d'échapper aux recherches des gendarmes. Quel que soit le lieu où il se cacha, il avait si bien la certitude de n'y être point découvert, que dès le jour même, il écrivit au ministre de la police, essayant de traiter avec lui de puissance à puissance. Quelques passages de sa lettre méritent d'être conservés. On y reconnaîtra l'imperturbable aplomb dont il avait déjà fait preuve en maintes circonstances semblables, et à défaut de documents plus précis, on pourra épuiser de précieux indices sur sa souplesse d'imagination et les étonnantes ressources de son esprit. 25 Vendôme en 12. Hier, jeudi 24 Vendôme, à minuit précise, j'entendis donner mes chiens. J'ouvris ma croisée et j'aperçus plusieurs hommes qui étaient sur la terrasse de mon château. La croyance où je fus que c'était des brigands et la position où je me trouvais d'être seul dans mon grand local, je sautai avec vitesse sur mes armes et j'écriai « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» J'entendis plusieurs hommes qui criaient « Ouvrez vos portes !» Je répondis que je n'ouvrirais point. Alors ils me dirent « Ouvrez vos portes au nom de la loi !» Ma réponse fut que la loi même m'autorisait à en refuser l'ouverture et que ce n'était point l'heure à laquelle on put mettre à exécution aucune loi, mais que, s'ils étaient porteurs d'un ordre quelconque, ils pouvaient fouiller mon château jusqu'au jour et qu'alors je me soumettrais. Ils me récidivèrent qu'il fallait que j'ouvrisse à l'instant, sinon qu'ils allaient foncer mes portes. Ma réponse fut qu'avant d'y faire droit, j'exigeais que le maire de ma commune parût pour constater leur pouvoir. Un instant après, un homme se fit entendre en disant « Je suis maire de votre commune. Vous avez une dame dans votre château que l'on cherche. Ouvrez vos portes au nom de la loi ou on les fonce. » Je lui répondis que je ne reconnaissais point cette voix pour celle du maire, que dans les ténèbres, je ne pouvais la distinguer ni la reconnaître. Je l'ai invité à prendre une lumière en main pour que je puisse en être convaincu, en lui affirmant que je n'avais personne chez moi. Tous se mirent à casser mes croisées, foncèrent mes portes et pénétrèrent dans l'intérieur de mon habitation avec une rage et une impudence sans exemple. Ils étaient 18 gendarmes, tous déguisés. Le droit et la facilité que j'avais à me défendre par le danger où je croyais être ne purent cependant m'obliger à tuer une si grande quantité de monde. Quoiqu'ils donnassent à présumer par leur conduite et leur action qu'ils étaient plutôt des voleurs, des assassins, des réchauffeurs de pieds que des hommes exécutant la loi. Cependant, loin de m'applaudir d'un courage qui ne m'a jamais manqué dans les actions les plus périlleuses, je me suis borné à sortir de chez moi par le souterrain pour aller chercher le juge de paix de mon canton et main forte, convaincu que le gouvernement, la loi et la justice m'en donneraient raison. Lorsque j'appris que c'étaient des gendarmes déguisés pour m'arrêter, c'est alors que je pris le parti de fuir et d'abandonner mes propriétés. J'ai aimé mieux être errant et malheureux que de servir de victime à mes ennemis. J'ai mon opinion, mais je suis incapable de nuire et de conspiration contre ma patrie. » Rougeville concluait en demandant audacieusement un sauf-conduit lui permettant de rentrer à Saint-Laurent et promettait, en échange de cette faveur, de se présenter devant les juges quand il le faudrait. Le ministre communiqua cette lettre étrange au préfet du Pas-de-Calais et l'invita à informer cet homme que le gouvernement n'acceptait aucune condition. Si Rougeville est innocent, il doit s'en rapporter à la justice du premier consul. S'il ne se présente pas sans délai, il ne peut espérer aucune grâce. Le préfet fit insérer cet avis dans les feuilles publiques d'Arras. Il semble résulter de certaines pièces du dossier qu'un nommé Leduc, juriste-consul, tout en prétendant ignorer la retraite de Rougeville, se chargea de lui faire connaître la teneur de cette annonce. Sans doute, le proscrit n'avait-il qu'une médiocre confiance en la justice du premier consul, car il ne crut pas prudent de se montrer. Il lui fallait de plus solides garanties. L'autorité, cependant, ne négligeait rien pour assurer son arrestation. Sa présence fut un jour signalée à Douai, puis on le citait caché dans quelque cave ou grenier d'Arras. Tous les agents de la police publique et secrète étaient à ses trousses. Chaque jour, on signalait sa découverte comme imminente et chaque jour amenait une nouvelle déconvenue. Rougeville, du fond de la cave ou du grenier où il se terrait, continuait à correspondre directement avec le ministre, aussi tranquillement que s'il eût été à Saint-Laurent. Il lui accusa réception de la vie, insérer le vin germinal dans le citoyen français. Au grand juge, ministre de la justice, citoyen ministre, je viens d'apprendre par les feuilles hebdomadaires de mon département l'extrait d'une lettre du conseil général que le préfet y a fait insérer en réponse à une lettre du 26 Ventose que j'ai eu l'honneur de vous adresser. Depuis, je me serais présenté à votre tribunal sans une indisposition qui me retient forcément et vous prie de croire que je ne tarderai pas à m'y présenter. Je suis trop impatient de connaître les motifs qui causent mes disgrâces et trop jaloux de mon honneur pour ne pas chercher à me justifier et détromper le gouvernement des mensonges affreux que quelques hommes méchants ont servi sur ma vie politique et morale. Le ministre, désespérant d'atteindre jamais un tel homme, se contenta de mettre en marge de la lettre un mot, un seul mot, l'attendre. Il était résigné sans doute à l'attendre toujours. Mais il ne connaissait pas Rougeville. Celui-ci n'eut-il pas l'audace de se présenter à l'audience publique du ministre, le 6 Floréal en 12. Il plaida chaudement sa propre cause et demanda innocemment à retourner à Saint-Laurent où l'appelaient les travaux des champs. Mais les papiers saisis chez lui, sans établir nettement sa participation au complot royaliste,
était de nature à éveiller les soupçons du pouvoir, et le grand juge prit un arrêté en vertu duquel le châtelain de Saint-Laurent était envoyé en surveillance à 40 lieues de son domicile. On lui laissa le choix de la résidence. Il désigna Reims, où il pensait sans doute pouvoir encore être de quelque utilité à la cause qu'il servait de si mystérieuse façon.